La langue de Fidao. Quand on demandait à Philippe Tro, et vous, qu'est-ce que vous étudiez? Il répondait, oh, j'étudie les langues orientales anciennes et surtout le Fitao. Et comme on ignorait ce que c'était que cette langue, il disait, ah, d'un air étonné ou entendu, suivant qu'on y apportait ou non quelques franchises. Mais généralement, il ne poussait pas plus à loin la curiosité. Si quelqu'un s'avisait cependant de demander des éclaircissements sur le Fitao, Trox s'expliquait que c'était un langage sacré, conventionnel et secret, connu seulement autrefois de quelques prêtres tibétains. Et ce qui fait la difficulté de cette étude, ajoutait Trox, c'est que le Fitao a été négligé jusqu'à nos jours, au point qu'il n'en est resté ni grammaire, ni traité. Un philologue anglais du nom de Hex, d'ailleurs inconnu, et le fameux Bacon observèrent peut-être assez bien le Fitao, mais ils eurent le tort de n'en point faire part et profiter leurs contemporains. Et Tooks expliquait encore que, comme il s'agissait d'une langue seulement parlée et non écrite, on en possédait, autant dire, aucun texte. Et avant toute chose, il importe, continuait-il, d'établir le vocabulaire complet. Et c'est à quoi je travaille présentement. Mais c'est une tâche aride et longue. Il faut faire tant de recherches. Aussi bien qu'un autre, Trox allait à la brasserie et tout son entourage savait qu'il étudiait le Fitao. Le patron de son restaurant le savait aussi. Et lorsqu'on naissait l'occasion, ses amis le disaient à leurs amis. Et d'aucuns le blâmaient d'employer ainsi son temps à des études certainement intéressantes, mais sans utilisation possible ultérieurement. Mais généralement, au contraire, on louait son désintéressement. Heureusement, disait-on, il existe encore des gens pour lesquels faire des études n'est pas synonyme d'entrer dans l'épicerie des savants, digne de ce nom, pour lesquels apprendre est la suprême récompense. Au surplus, Tos s'entendait fort bien à conduire ses affaires, sans façon, sans ostentation, avec une modestie qui lui gagnait des sympathies réelles et efficaces. Un an après, Trox obtint une pension pour recherche à l'étranger sur la langue et la littérature Fitao et établissement éventuel d'une bibliographie du sujet. C'est-à-dire qu'il reçut du gouvernement 8 000 francs en deux fois, d'abord 5 000, puis un petit supplément de 3 000, à charge pour lui de s'en aller passer un ou deux ans dans les principales capitales d'Europe et d'adresser ensuite au ministre un rapport sur ses travaux. Tous avaient fort bien compris qu'il ne trouverait aucun document dans les grandes bibliothèques européennes Pour la raison première et suffisante que la langue phtahphitao était tout entière de sa création, en partant de quelques racines tibétaines, il avait forgé un vocabulaire fait de pure invention, combiné d'effections et déterminé des règles. Et peu à peu, la langue phtahphitao était née de son imagination, telle sans doute qu'elle aurait pu être si elle n'avait jamais été. Et comme il se trouvait seul à la connaître, Trow ne craignait pas de rencontrer des contradicteurs. Il allait à courtes et prudentes étapes, et d'ailleurs, sans dissimuler, au contraire, qu'il procédait à une lente et progressive découverte, de sorte, de la sorte, et fort habilement, il conservait dans son travail son caractère vrai. Entre la reconstitution à laquelle il était censé se livrer et la construction à laquelle il se livrait effectivement, il n'y avait qu'une nuance. Et l'important était de procéder en tout comme si les recherches, elles, eussent amené à retrouver et non à inventer les différents éléments linguistiques qu'il mettait à jour. Il fallait être très circonspect, n'affirmer jamais et envelopper toutes ces hypothèses d'un doute proteste et un préventif pour s'assurer la possibilité de la retraite sur tel ou tel point et se concilier en même temps l'estime des savants en gardant l'attitude simple d'un chercheur. Trow ne redoutait donc ni la contradiction ni la concurrence. Et de ce fait, il avait une sûreté d'allure étonnante. Après ces 2 ans de séjour à Londres, à Vienne, à Berlin et aussi à Budapest, il dressa un rapport au ministre de l'Instruction publique. Rapport sérieux, documenté et prudent qui, à la vérité, constatait l'absence générale en Europe de documents, mais faisant faire cependant un pas immense, dirent les gazettes, à l'étude de la langue phtahphitao. C'est que Trow était doué au plus haut degré de ce qu'on appelle l'esprit scientifique, et de plus, il était travailleur, et son habileté première consistait à étayer chacun de ses citations personnelles en phtahphitao sur une caractéristique indifférente à une autre langue et facilement vérifiable. Jamais un ignorant ou un paresseux n'eût pu faire ce qu'il faisait. Son mérite d'avoir compris que pour réussir de nos jours, il importe de sortir des sentiers battus, se doublait d'un labeur sérieux et persévérant. Il fit éditer son rapport en volume et obtint un prix de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il publia ensuite un opuscule sur l'agglutination dans la langue Pitao. Cet opuscule eut l'avantage d'être véhémentement critiqué dans une brochure qui parut en Allemagne et qui fournit à trop l'occasion d'une réfutation rigoureuse et péremptoire. Et la réplique fut d'autant plus facile qu'il en était lui-même l'auteur, sous un nom supposé de la brochure dirigée contre ses propres travaux. Cette discussion, dans laquelle le dernier mot lui resta naturellement, fut la consécration publique qui manquait à ses découvertes. Dès lors, le Fitao était né à la critique moderne. Trop avait eu l'habileté de ne pas faire sa thèse de doctorat sur son sujet préféré d'étude, mais il prit sa revanche à l'agrégation. Il n'eut qu'un seul contradicteur qui se borna à lui présenter à peine déguisé les objections contenues dans sa brochure allemande, dont il triompha violemment facilement. Et après avoir ainsi créé en l'étudiant, et pour qu'il eût une existence officielle et définitive, il ne restait plus à trop qu'à enseigner le Fitao. Et c'est ce qu'il fit. Il ouvrit un cours libre qui ne fut pas très fréquenté, il est vrai, mais sur l'existence duquel il put se baser néanmoins pour demander et obtenir la création d'une chaire. Désormais, la carrière de Trot était faite. Il enseigna le Fitao, comme d'autres enseignent le sanskrit, et il le fit avec d'autant plus d'autorité qu'il était assuré de ne jamais commettre d'erreur. Il publia un dictionnaire des racines Fitao et une grammaire élémentaire qui furent autorité aujourd'hui encore. Trot fut un professeur comme il n'y en a pas assez dans la nouvelle école. Audacieux, silencieux, moderne et travailleur infatigable, toute sa vie ne fut qu'une longue et persévérante recherche. Lorsqu'il mourut, voici 3 ans, il était officier de la Légion d'honneur et membre correspondant de nombreuses académies. Ses publications avaient assuré une notoriété presque universel dans le monde des savants. Ce fut tout naturellement un de ses élèves qui lui succéda dans sa chaire, et le Fitao s'enseigne aujourd'hui couramment en Sorbonne.